Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux générations de Kleinman, l'artiste Alain et son fils Raphaël. Bonsoir Raphaël et Alain.
Bonsoir.
Bonsoir Sandrine.
Alors, la transmission sera le fil conducteur de cette émission, mais on va d'abord s'intéresser au papa, Alain Kleinman, l'artiste, que nos auditrices et nos auditeurs de Radio Shalom ne connaissent bien. Alors, il est difficile de réduire Alain Kleinman et son œuvre à des mots. Je vais tenter de m'y essayer, même si forcément ça sera stéréotypé et que le message artistique que vous essayez de véhiculer est bien au-delà de ces mots et de ces quelques lignes que je vais ici résumer. Alors, il faut savoir que l'immense talent d'Alain Kleinman est proportionnel à sa modestie et sa gentillesse. Et je m'excuse par avance, Alain, si cette courte présentation heurte votre humilité. Vous êtes considéré comme un artiste de la mémoire, celle de la Shoah, et d'une identité juive ashkénaze qu'elle a tenté de faire disparaître. Par votre œuvre, vous redonnez vie à un monde disparu, celui du shtetl, la bourgade juive d'Europe centrale. Une mémoire vivante, donc. Vos œuvres sont toujours habitées par des lettres, par des âmes, par un je ne sais quoi d'humanité qui touche celui qui la contemple. Vivante, vos réalisations n'ont jamais cessé d'évoluer par la diversité des supports employés, les techniques développées. Des ponts sont construits entre le sujet, la tradition, la mémoire et la technique qui mixent l'emploi de matériaux nobles à l'état neuf et la récupération de supports usagés chargés d'histoire. Ces liens que vous nouez entre le passé et le présent, la modernité et la tradition ont conquis un public artistique à travers le monde, ce qui fait de vous un des artistes majeurs du monde contemporain. Votre actualité donc, et ce pourquoi vous êtes là parmi nous aujourd'hui, c'est une nouvelle exposition que vous inaugurez ce dimanche 13 septembre dans un nouveau lieu, le Centre européen du judaïsme. Alain, alors est-ce que c'est enthousiasmant de présenter une nouvelle exposition dans un nouveau lieu qui comptera désormais dans le judaïsme français et européen ?
Oui, Sandrine, bien sûr, ça l'est. D'abord, merci beaucoup de votre si gentille présentation de mon travail. Oui, effectivement, ce Centre européen du judaïsme qui est place de Jérusalem est peut-être le plus grand projet communautaire quasiment de tous les temps. C'est-à-dire, c'est un lieu absolument formidable avec beaucoup, beaucoup d'activités et de potentialités. Et c'est un grand honneur que d'ouvrir la première exposition dans ce centre. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai essayé d'y présenter une quarantaine d'œuvres avec des matériaux très différents. Il y a des bronzes, des travaux sur toile, des travaux sur papier, des installations. Enfin, mais l'espace a une très belle qualité et permet effectivement, sans qu'il y ait d'encombrement, de présenter toutes sortes de choses.
Alors vous l'avez dit, c'est place de Jérusalem, dans le 17e arrondissement de Paris, un nouveau lieu dans un quartier qui accueille davantage de membres de la communauté juive. Est-ce que vous pensez que c'est un nouveau public pour votre travail ?
Ça l'est toujours. Enfin, il y a ceux dont j'ai la chance qu'ils aient déjà vu des choses. Et puis, il y a toujours un nouveau public, effectivement. C'est aussi un fichier très important qui est européen. Donc, que les gens assistent ou non à l'exposition, ça leur donnera une allusion au fait qu'elle ait lieu. Enfin, de toute manière, même quand ce sont des personnes qui ont déjà vu mon travail, à partir du moment où il y a de nouvelles œuvres, ça m'intéresse toujours beaucoup qu'il y ait un regard sur les choses en train d'évoluer, bien sûr.
Oui, vos œuvres se renouvellent évidemment beaucoup, et évidemment aussi c'est une chance pour le CEJ d'accueillir en ouverture une exposition d'Alain Kleinman. Alors votre exposition a pour thème « Mémoire au pluriel », c'est le mot qui semble mieux convenir à votre travail. Alors c'est pas facile pour un artiste de dire des mots sur son œuvre, mais pour vous la mémoire, qu'est-ce que c'est ? Les mémoires, qu'est-ce que c'est ?
Alors effectivement, dans votre présentation sur mon travail et dans votre question maintenant, vous parlez de la difficulté à parler de la peinture. C'est vrai que la raison d'être, si on peut dire, de la peinture comme de la musique, est que ce sont des langages qui échappent au langage naturel, c'est-à-dire à celui des mots, et donc la réalité profonde de ces activités est sensiblement différente de la manière dont on peut en parler. Pour le dire plus simplement, la thématique d'une toile n'est vraiment pas la toile, c'est-à-dire que si la couleur rouge, c'est pas le mot rouge, c'est pas non plus la couleur du sang, il y a une variété infinie de rouges, et donc il y a toujours ce bémol quand on parle de peinture, de savoir savoir que par définition, on ne peut parler finalement qu'autour de la peinture ou de la thématique de la peinture. Et donc, votre question sur la mémoire, effectivement, c'est peut-être le mot le plus approprié pour aller vers ce que j'essaie de trouver, mais j'ai le sentiment que c'est d'abord de la peinture, des matériaux, une sensibilité visuelle. Évidemment, tout ça est un peu canalisé par l'idée de mémoire, de souvenir, de persistance des choses. Mais enfin, j'aurais beaucoup de mal à en dire plus, parce que si je pouvais le faire, je ne le peindrais pas d'une certaine manière.
Oui, puisque le langage artistique est un autre langage que celui de la syntaxe. Est-ce que c'est plus difficile pour vous de trouver des mots sur vos tableaux ou d'écouter des gens qui en parlent ?
Alors, là aussi, avec la précaution oratoire de savoir que dans les deux cas, c'est pas vraiment de peinture dont il s'agit. Donc pour moi, le plus simple, c'est de peindre. C'est-à-dire, je le fais depuis mon enfance et c'est tout à fait naturel. Ça me semble plus simple pour moi d'aller en profondeur dans ce que je souhaite dire par la peinture que je ne peux le faire par les mots. Maintenant, il m'intéresse autant d'écouter des choses, qu'elles soient pertinentes ou non, à vrai dire, sur l'effet que peut produire mon travail, que le fait d'en parler moi-même, et c'est ou non pertinent également, puisqu'il y a ce qu'on appelle les discours de vernissage où on fait semblant de tout savoir sur tout, et en fait, c'est une sorte de catégorie un peu incertaine dans laquelle on essaie d'engouffrer des certitudes qu'on n'a jamais eues.
Alors vous l'avez compris, hein, il faut aller voir les œuvres d'Alain Kleinman qui sont exposées au Centre européen du judaïsme. Vous l'avez dit, une quarantaine de vos œuvres.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Il y a des huiles sur toile, des installations, des sculptures ?
Oui, alors il y a tout ça. Il y a une grande installation qui est la préparation que j'avais faite pour une pièce de théâtre qui a eu lieu à La Havane sur mon travail. Donc c'est comme une ambiance de vieux grenier avec un chevalet abîmé, des papiers qui volent, des machines à coudre. Enfin, c'est une sorte d'ambiance, et pour moi il n'y a pas de différence essentielle entre ces objets et cette mise en scène et un petit dessin ou une toile. Il y a effectivement toute une série de travaux sur papier qui sont aussi un peu la continuité là aussi d'une expo que j'avais faite au Musée national des Beaux-Arts à la Havane sur les escaliers de la vieille Havane. Et ce sont des techniques donc de photos, de dessins, donc de Chine, et j'utilise comme allusion au mur un peu décrépit ou à un matériau comme ça qui se défait, des collages avec du sucre en poudre. Qui à La Havane était un matériau, enfin une production locale. Voilà, mais qui ici permet de, quand on le mixe avec des papiers, des encres, d'avoir l'impression comme ça de ces murs qui sont en train de tomber en ruine. Enfin, il y a fait, comme vous l'avez dit, des bronzes, enfin il y a bien un certain nombre de choses.
Alors quand on dit Alain Kleinman, un peintre, encore une fois réducteur, c'est un artiste peintre qui touche à tout. Et finalement, vos expositions, vos travaux, vos œuvres sont très modernes par l'installation. Donc il y a un thème qui peut paraître un petit peu une réviviscence d'un passé ou d'un monde disparu que vous faites revivre. Et puis le matériau, la technique qui est très moderne. Alors c'est un peu la problématique de cette émission, redonner une actualité à la culture. Alors la question que je voulais vous poser, justement, par ces techniques, par ce monde, par ce sujet, eh bien finalement, est-ce que pas, on vous qualifie de d'artiste juif ou d'œuvre juive, mais est-ce que ça touche pas à l'universel ? Est-ce que c'est pas un message qui s'adresse à l'humanité en son entier ?
Alors, en tout cas, enfin, ça serait immodeste de dire que je le souhaite profondément, mais pourtant c'est le cas. C'est-à-dire, je crois que la pertinence d'aller profondément dans son identité et sa spécificité, c'est effectivement au bout du chemin de rencontrer celle de l'autre, de dialoguer avec. J'ai eu la chance d'exposer dans beaucoup de pays, plusieurs continents. Enfin, donc c'est très émouvant. On parlait de Cuba, mais de voir à quel point le public cubain a été réceptif à mes travaux. C'est vrai de la Chine, du Japon, des États-Unis, de l'Afrique noire. Enfin, de pays européens, évidemment. Donc c'est toujours formidable de, en étant soi-même, de voir la réaction de l'autre et les liens de connivence. Évidemment, les questions de mémoire n'appartiennent pas qu'à notre peuple ou qu'à ma famille. Ça fait partie des préoccupations partagées par l'humanité entière. Et chacun, avec ce qu'il est et son histoire propre, en fait, projette quelque chose sur ces images, comme sur un certain nombre d'autres images, bien sûr.
Et interprète à sa façon le oui. message que... Alors, est-ce qu'il y a un message, finalement, que vous voulez faire passer ?
Je pourrais pas le dire comme ouais. ça, parce que j'ai même quand j'écris, vous l'avez fait remarquer à l'intérieur de toile.
C'est vraiment de l'art pur, et après c'est à celui qui voit qui interprète à sa façon.
Oui, j'essaie toujours que ça soit à peine lisible ou pas lisible, c'est-à-dire que j'ai toujours très peur que ça devienne un slogan.
D'accord.
Ou un titrage, et à ce moment-là, ça réduit évidemment l'ambiguïté, la dimension qu'a naturellement la peinture, c'est-à-dire qu'elle est jamais réductible à un mot. Il y a des œuvres célèbres là-dessus, le fameux « Ceci n'est pas une pipe » de Magritte, c'est-à-dire que le mot « pipe » ne
correspond pas.
Voilà, ne coiffera jamais l'objet peint. Qui lui-même n'est pas l'objet, d'ailleurs. C'est, comme dirait Lacan, le nœud borromien, le réel, le symbolique et l'imaginaire. C'est-à-dire que tout ça est beaucoup plus compliqué que les habitudes. Et la pertinence, d'une certaine manière, de la peinture, c'est d'arriver à se faufiler dans ces catégories qui ne sont pas fixes.
Alors, votre œuvre est connue dans le monde entier. Vous avez fait des expositions et vous continuez d'exposer dans différents pays. Je pense à un philosophe juif comme Emmanuel Levinas qui n'aimait pas qu'on le qualifie de penseur ou de philosophe juif. Vous, qu'est-ce que vous êtes ? Un artiste, un peintre, un artiste peintre juif ? Est-ce que ça vous dérange quand on accole l'épithète juif à votre nom ?
Alors je ne sais pas ce qui le dérangeait. Est-ce que c'était les trois mots, c'est-à-dire philosophe, penseur et juif ? Je pense que c'est de juif dont il s'agit. En ce qui me concerne, à vrai dire, si on dit artiste, peintre et juif, les trois mots me dérangent.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai jamais eu l'impression d'être un artiste. Je peins très naturellement à l'huile depuis que j'ai 7 ans. C'est un langage naturel et j'ai jamais pensé en faire ni un métier ni une source de gloire en disant que je suis artiste. Peintre. Je peins, mais je fais de la sculpture, je fais du dessin, je fais de la musique, je lis, je fais du karaté. Il y a mille autres choses. Je vois pas pourquoi on me réduirait à une spécificité. Et juif. Alors évidemment, c'est pas un secret. Je suis juif et c'est une partie importante de mes référents et de ma vie. Mais je suis un homme. Je voyage dans le monde. Je parle à d'autres. Donc je me méfie. À vrai dire, quand on a cette alara. L'ota set muna, c'est-à-dire de ne pas faire d'image, j'ai toujours pensé qu'il s'agissait de ce qu'on appelle en français les images d'épinal, c'est-à-dire les images fixes qu'on a et derrière lesquelles on se réfugie dans la tête, et ça ne touche pas nécessairement à ce point les images de l'ordre de celles de la peinture, de la sculpture. Enfin, la halakha est assez claire là-dessus, mais c'est sûrement de ça dont il faut se méfier. Donc les trois mots dont vous me parlez, finalement, sont des images, donc des réductions, donc des caricatures de ce que peut être un être humain en général. Pas que moi, évidemment, tout le monde.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie d'Alain Kleinman et de Raphaël son fils, pour nous parler d'abord de sa nouvelle exposition au Centre européen du judaïsme. Alain, votre actualité, c'est aussi un nouveau site internet qui présente votre travail. Alain Kleinman, comme ça se prononce avec deux N à Kleinman à la fin, .com, tout attaché. Pourquoi ce site ?
Alors, il y a quelques années, les éditions d'Art Somogy avaient publié un très gros livre de 600-700 pages sur mon travail. Et j'avais un site qui était peut-être un des premiers sites en France, mais enfin très pauvre, très très maigre, qui signifiait pas grand chose. Et en fait, je me suis dit après ce livre-là que ça serait bien de rendre l'ensemble des documents sur lesquels on avait travaillé public. Et donc ça a été un gros travail de 2 ans de préparation. Mais du coup, c'est quelque chose de très complet avec de toutes sortes de catégories d'œuvres. Beaucoup de textes, des vidéos.
Alors, des citations sur votre œuvre, un site qui est très bien fait, qui est joli à voir en
Merci.
Plus. et, Eh ben, qui donne envie de découvrir encore davantage votre travail, et notamment celui qui est présenté en ce moment à l'exposition, qui va l'être. Alors, il y a une question classique, mais néanmoins difficile, et d'autant plus pour vous, Alain, dans cette émission. Si en une ou deux phrases, peut-être même moins, vous deviez donner envie aux auditrices et aux auditeurs d'aller à l'exposition, qu'est-ce que vous leur diriez ? C'est pas facile.
Oula. Je ne saurais pas quoi dire parce que c'est trop difficile d'être juge et parti. Et la position qui consiste à dire c'est très joli ce que je fais, je n'arrive pas naturellement à rentrer dedans. Mais enfin, en tout cas, j'essaie de continuer ma démarche. Je mets une grande partie de ma vie là-dedans. Si ça intéresse quelqu'un, qu'il n'hésite pas à venir. J'espère qu'il...
Alors, je vais vous aider. Alors, vous connaissant, je savais que c'était difficile. En tout cas, c'est une exposition à aller voir qui présente plusieurs facettes de vos travaux et une œuvre qui parle. C'est-à-dire qu'on vous résume un peintre de la mémoire, c'est ce que j'essayais de dire au début, mais c'est bien plus que ça. C'est une œuvre qui interpelle, qui invite à des prolongements quand on la regarde, quand elle fait réfléchir, et c'est pour ça qu'il faut redécouvrir l'œuvre d'Alain Kleinman. La mémoire, c'est aussi la transmission, et il y a ici autour de ces micros, et bien deux générations de Kleinman. Il y a aussi Raphaël qui inaugure une nouvelle association, Keep Rising. Qu'est-ce que c'est, Raphaël ?
Alors, le Keep Rising, c'est une association qui permet de donner des cours de Torah de tout niveau, vraiment de tout public. On a commencé à donner des cours pour jeunes. Je donnais moi-même les cours pendant des mois et des mois. Et il s'avère que Baruch HaShem, ça s'est expansé. Du coup, tous les soirs, on a des grands rabbanim, on a le Rav Eliyahu Uzan qui nous donne des cours tous les lundis, le Rav Yosef Rosenberg. Si Dieu veut, pour la semaine prochaine, on aura le Rav Ben Chetrit, on donnera des cours avec le grand rabbin de France. Et c'est vraiment pour donner des cours, pour pouvoir ramener les personnes qui veulent étudier. Toute personne ayant l'envie peut venir. Toujours chaleureusement, on a des bachorim qui viennent, comme ça les jeunes se sentent attirés. Mais il s'avère que la moyenne d'âge a beaucoup évolué depuis. Ce qui fait que n'importe qui veut étudier ou écouter des petits cours peuvent nous suivre et apprendre un petit peu de Torah tous les jours.
Alors, il faut dire que c'est une association que vous avez créée autour de ces immenses figures du judaïsme dont vous parlez, mais c'est aussi des supports sur le net qui permettent à tout un chacun de chez eux et bien d'avoir accès à ces cours.
Exactement, on se trouve sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. On publie surtout sur Instagram et Facebook une partie des cours qu'on met en direct tous les soirs sur Zoom. Mais aussi, on publie des citations, on a des témoignages de nos anciens membres qui touchent énormément le public. Et comme ça, tous les jours, les personnes, en ouvrant leurs réseaux sociaux, en plus de regarder des blagues et des vidéos drôles, ils peuvent aussi retrouver, et on essaye de les capter, en leur donnant juste même une petite citation de Torah ou un petit cours d'une ou deux minutes pour renforcer leur journée.
Alors justement, c'est un point sur lequel il faut insister. Ce sont des cours qui sont accessibles à tous, même des novices en études juives, c'est bien ça. Alors c'est quoi le but finalement de ces vidéos ?
Alors le but justement, c'est toute personne ayant l'envie de commencer à étudier ou bien de se renforcer ou bien d'augmenter, ils peuvent venir. C'est ça le but du Keep Rising et c'est ça qui a commencé à toucher les gens. C'est qu'au début, on a commencé entre amis, mais des personnes pas très religieuses qui connaissent pas grand-chose. On fait en sorte que les cours soient totalement accessibles à tous. Ce qui fait qu'on a des grands rabbinim. On va prendre l'exemple du Rav Uzan qu'on a, Eliyahu Uzan, qu'on a la chance de recevoir tous les lundis. Lui, pourquoi ça me touche énormément qu'il soit là ? Parce que déjà, excusez-moi, mais il a très certainement beaucoup mieux à faire que venir dans notre petite association. Mais il a une manière de parler qui captive l'attention. Ça capte totalement l'attention. Et en plus de ça, derrière son discours, il est sourcé, il est fort, il est... Enfin, il vient quand même de la yeshiva de Pavé, donc il y a un véritable discours, mais accessible à tous par sa manière de parler. Et c'est ça ce qu'on essaye de faire, c'est attirer les gens grâce à ce mode oratoire et à leur transmettre par ça un maximum d'enseignements.
Alors concrètement, les auditrices et les auditeurs qui seraient intéressés, comment on vous contacte ? Comment on contacte l'association et comment on accède à ces cours ?
Alors très simplement, pour ceux qui n'ont pas forcément Instagram et Facebook, déjà vous pouvez nous suivre sur donc Instagram et Facebook en recherchant sur internet Keep Rising Off pour le Instagram, et sinon sur le YouTube, vous pouvez trouver le YouTube du Keep Rising qui est en train de se développer, Et pour les personnes un peu plus proches ou bien qui connaissent des amis étant déjà membres, on a le groupe WhatsApp où on envoie les liens des cours Zoom tous les soirs en direct.
Alors c'est tout à fait étonnant, je vous entends parler, vous êtes étudiant en droit en deuxième année, vous pourriez faire des tas d'autres choses et puis là vous essayez de ramener des juifs perplexes sous le giron du judaïsme. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette démarche? Une teshuva personnelle, une envie de faire partager la beauté des textes?
Ah oui, c'est vraiment comme vous avez dit, l'envie de faire partager les textes. J'ai moi-même commencé à vraiment étudier ardemment, on va dire, il y a un an à peu près, la Gemara. Et j'ai adoré ça. J'ai étudié à la Rashi Shul avec le fils du Rav Rosenberg Zatzal, le Rav Yosef Rosenberg, qui est d'ailleurs le parrain de l'association. Je commençais à étudier et c'est quelque chose vraiment qui m'a pris au cœur, qui je trouve ça absolument exceptionnel. Et il s'avère qu'une amie, pendant le confinement, m'a demandé de lui apprendre, de lui faire des cours de Torah. Donc on a fait sur le livre du Rav Hershey Kleiman, Prier avec feu. On a terminé tout le tome 1, qui faisait plus de 80 cours. Et tous les soirs, on donnait des cours. Et c'est justement, quand les personnes ont envie d'étudier, je ressens dans leur envie la première envie que moi j'avais, la première impulsion que j'avais, ce qui fait que ça nous a poussé, ça nous a propulsé. Et comme on dit dans le traité Brachot au Davav Amud Bet, à la page 6 au verso, on dit justement, les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Et c'est quand on ressent véritablement ce qu'on fait, ça captive directement les autres. Et c'est comme ça qu'ils ont aimé, et c'est comme ça qu'on a nos noyaux de fidèles, et qui nous suivent depuis des mois et des mois en réalité.
Alors question freudienne, on pourrait dire, et votre maman dans tout ça, mais j'ai envie de vous demander, et votre papa dans tout ça, quel regard vous posez sur son travail, sur ses œuvres?
Par rapport à papa, bah, comme vous avez dit, le thème de l'émission, c'est la transmission. Et c'est exactement le thème qui nous rallie, nous deux. Et lui, il transmet par ses œuvres, il transmet par... il transmet des idées qu'on ne pourrait pas justement transmettre par le langage. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il arrive à tout faire par ses œuvres, par la peinture, par la sculpture, par ses pièces de théâtre, par la musique en même temps qu'il transmet.
Par les techniques artistiques.
Exactement. Et moi, j'essaye de faire la transmission à mon petit niveau en utilisant juste la parole parce que j'ai pas l'éventail de techniques papa. Mais j'essaye à mon petit niveau de lui ressembler un petit peu.
Par un autre langage.
Exactement.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de dire Raphaël? Vous, qu'est-ce que vous portez comme regard justement sur cette association et sa démarche?
Ah bah écoutez, d'abord, je suis... là, j'ai la faiblesse d'être très, très fier et très ému de tout ce que fait Raphaël. Je trouve ça remarquable. Enfin, il n'y a que des bonnes dimensions là-dedans, un rapport à l'autre, à la générosité, à notre ancrage dans les textes. Enfin, je suis même halluciné de la rapidité avec laquelle tout ça s'est développé. C'est-à-dire qu'il a effectivement commencé à étudier la Gemara et des choses plus profondes il y a assez peu de temps. Et curieusement, ça a été sa réponse au confinement, c'est-à-dire au moment où il ne pouvait plus aller quotidiennement à la choule comme il le faisait. Il a été vraiment préoccupé par l'idée de continuer d'échanger, d'apprendre, d'enseigner, et il a mis au point ça. Il faut croire effectivement que d'abord ça a correspondu plus largement aux besoins de ce moment, et ça prend de semaine en semaine des proportions, tout à fait impressionnantes. Je suis baba d'admiration, très très heureux d'avoir un fils comme ça.
Eh bien, moi aussi, je suis ravie d'avoir pu recevoir aujourd'hui Alain Kleinman qui nous parlait de sa prochaine exposition au CEJ, Centre européen du judaïsme, donc qui commence ce dimanche et jusqu'au 15 octobre, place de Jérusalem, dans le 17e arrondissement de Paris, et puis son fils Raphaël, avec cette nouvelle association Keep Rising, à qui on souhaite évidemment beaucoup de chance et un grand développement. Et on peut voir donc les premières vidéos en connectant sur la page FB de Keep Rising. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci
beaucoup.